de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. La Turquie assouplit à nouveau les règles de COVID-19. La délégation israélienne se rend en Égypte pour discuter de l'échange de prisonniers du Hamas. Un ministre ougandais échappe au meurtre. Sa fille n'a pas survécu. L'Espagne met fin à la surveillance intensive des produits de thon en conserve indonésien. Les PME de Java occidental présentent leurs produits en Namibie. L'Indonésie et l'Angleterre discutent des préparatifs pour la tenue du dialogue FACT à la COP26. Et le gouvernement provincial de Riau soutient le transfert de la gestion du bloc Rokan de Chevron à Pertamina. Mon cher Jolitar, voici les nouvelles en complet. La Turquie assouplit à nouveau les règles de COVID-19. Le gouvernement turc a de nouveau assoupli les mesures de prévention de COVID-19 lundi, notamment en supprimant une partie du confinement au cours du week-end et en ouvrant des restaurants avec un nombre limité de convives. Cité par Reuters, le président Tayyip Erdogan a déclaré que l'assouplissement des règles en réponse à la baisse des cas est entré en vigueur à partir de mardi. En vertu de nouvelles règles, le couvre-feu national quotidien a été repoussé de 1h à 22h, heure locale. Erdogan a levé presque toutes les restrictions sociales en mars, mais les a réimposées en avril lorsque les cas quotidiens de COVID-19 sont passés à 60 000, plaçant la Turquie à la deuxième place mondiale. Un confinement partiel a été imposé de fin avril au 17 mai. La Turquie, avec une population de 84 millions d'habitants, a enregistré 6 493 nouveaux cas de COVID-19 lundi. La délégation israélienne se rend en Égypte pour discuter de l'échange de prisonniers du Hamas. Une délégation officielle israélienne se rendra en Égypte la semaine prochaine pour discuter d'un accord d'échange de prisonniers entre Tel Aviv et le groupe de résistance palestinienne Hamas. Selon les médias israéliens, les prisonniers palestiniens accusés d'être impliqués dans des attaques contre Israël feront partie des personnes libérées, si un accord d'échange est convenu. Les autorités égyptiennes n'ont pas encore commenté ce rapport. On estime que 4500 Palestiniens sont soupçonnés d'être détenus dans les prisons israéliennes, dont 41 femmes, 140 mineurs et 440 prisonniers administratifs. Pendant ce temps, la Hamas a arrêté 4 Israéliens, dont 2 soldats. Plus tôt lundi, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré qu'il y avait une réelle opportunité de faire des progrès sur un échange de prisonniers avec Israël après avoir eu des entretiens avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, dans l'enclave assiégée. Un ministre ougandais échappe au meurtre. Sa fille n'a pas survécu. Un ministre du cabinet gouvernemental ougandais a failli être victime d'un assassinat par un groupe armé mardi 1er juin, heure locale. Mais malheureusement, la fille et le chauffeur qui étaient avec lui ont été abattus. La chaîne de télévision locale NBS a rapporté que 4 assaillants à l'aide de motos ont ouvert le feu sur le véhicule transportant le général Katumba Wamala. Il est ministre ougandais de l'emploi et des transports. Le porte-parole de l'armée, le brigadier Flavia Biekwaso, a déclaré à Reuters que la fusillade avait eu lieu près de la capitale Kampala, Kinshasa. Des photos sur les médias sociaux ont montré des trous de balles dans les fenêtres de voitures. L'Espagne met fin à la surveillance intensive des produits de thon en conserve indonésien. La directrice générale par intérim du commerce intérieur du ministère indonésien du commerce, Indra Sari Wisnuwardana, espère que les opportunités d'exportation de thon en conserve augmenteront rapidement après que les autorités espagnoles auront mis fin à la surveillance intensive de l'importation de produits de thon en conserve d'un exportateur indonésien. Avec la fin de cette surveillance intensive, les produits de thon en conserve des exportateurs entrant sur le territoire espagnol n'ont plus besoin de passer par un processus de surveillance spécial. Indra Sari Wisnuwardana, dans un communiqué de presse publié mardi 1er juin 2021, a déclaré que cette décision est importante pour la crédibilité de la production indonésienne de poissons en conserve aux yeux de la communauté internationale. Pendant ce temps, l'attachée commerciale indonésienne à Madrid, Novita Sari, a déclaré que la sortie de l'un des produits indonésiens d'une surveillance intensive en Espagne était une opportunité pour les exportateurs et les producteurs indonésiens de conserves de poissons de pénétrer le marché espagnol. En outre, il montra aux citoyens espagnols que les produits de poissons en conserve indonésiens sont très bons pour la consommation. Les MPME de Java occidentale présentent leurs produits en Namibie. L'ambassade d'Indonésie à Windhoek a déclaré que jusqu'à 12 micro, petites et moyennes entreprises MPME de Java occidentale ont exposé leurs produits dans la ville de Windhoek en Namibie, en Afrique, au milieu d'une pandémie. L'exposition des produits de MPME indonésienne s'est tenue en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à Windhoek, l'association des exportateurs et producteurs d'artisanat indonésien ACPI de Java occidentale et le centre d'artisanat namibien. Les informations de l'ambassade d'Indonésie à Windhoek ont indiqué mercredi que l'exposition intitulée « Du village au marché mondial » s'était tenue du 28 mai au 10 juin à la Galerie Omba qui est le centre des produits uniques DMPME Namibien au Namibia Craft Center. L'ambassadeur indonésien en Namibie, Wisnuedi Pratigno, dit ses remarques lors de l'ouverture de l'exposition indonésienne des MPME, a déclaré que l'exposition était un lieu de présentation des produits indonésiens des MPME à la communauté namibienne et aux étrangers en Namibie. L'ambassadeur Eddy a également espéré que l'exposition ouvrirait la voie et ouvrirait la voie aux MPME indonésiennes pour pénétrer le marché africain, en particulier la Namibie. L'exposition des produits des MPME indonésiennes à Windhoek présentait une variété de produits allant des vêtements batiks, des produits de broderie, des accessoires, des bijoux pour femmes, de la céramique, des sacs en cuir, des chaussures. L'Indonésie et l'Angleterre discutent des préparatifs pour la tenue du dialogue FACT à la COP26. Le ministre coordinateur des affaires économiques Erlangar Tanto a reçu la visite du président de la Conférence mondiale sur le changement climatique COP26, Alok Sharma, ainsi que l'ambassade de la COP26 pour l'Asie Pacifique et l'Asie du Sud, Ken O'Flaherty, et l'ambassadeur britannique en Indonésie et au Timor-Leste, Owen Kins, à Jakarta, mardi 1er juin. La réunion a discuté des préparatifs de l'une des séries d'événements de la Conférence mondiale sur le changement climatique COP26 qui se tiendra à Glasgow en Angleterre du 1er au 12 novembre 2021. Au cours de la réunion, les représentants des deux pays ont discuté des préparatifs pour diriger un dialogue sur les questions des foresteries, d'agriculture et des produits agricoles et commerciaux, FACT, qui deviendra plus tard dans une série de conférences mondiales sur le changement climatique. L'Indonésie co-présidera plus tard la réunion avec la délégation britannique. Erlangga a déclaré que l'élection de l'Indonésie à la tête de la réunion de la Conférence mondiale sur le changement climatique était une forme de reconnaissance britannique de l'engagement de l'Indonésie à réaliser un secteur agricole durable. Erlangga a souligné que l'Indonésie s'est engagée à renforcer l'échange d'idées entre les participants à la Conférence mondiale sur le changement climatique. Le gouvernement provincial de Riau soutient le transfert de la gestion du bloc Rokan de Chevron à Pertamina. Le gouvernement provincial de Riau est prêt à soutenir le processus de transfert de la gestion du bloc de Rokan de Chevron Pacific Indonesia, CPISA, à Pertamina SA. On espère que la zone de travail du pétrole, du gaz apportera une contribution plus significative à la satisfaction des besoins énergétiques nationaux. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Riau Samsuar lors de la visite de Jeffy Harrison Suardin, président directeur de Pertamina Hulu Rokan SA, régional Sumatra. Sa partie espère qu'une fois le processus de transition terminé et le bloc Rokan géré par Pertamina, le droit du gouvernement local de gérer le PI Participating Interest de 10% pourra également être mis en œuvre. Le communiqué de presse de Pertamina Subholding Upstream Regional Sumatra reçu à Jakarta mardi a déclaré que lors de la réunion à la résidence officielle du gouverneur de Riau, le gouverneur de Riau a espéré également que PHR pourrait habiliter les entreprises régionales, les entrepreneurs locaux et les travailleurs locaux à soutenir le fonctionnement d'activités du bloc Rokan. Bon, cher Gélitar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. No. Bonsoir à tous maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « La Syrie après la victoire de Bachar al-Assad ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers amis, après les élections législatives qui ont rétabli Bachar al-Assad comme président de la Syrie, le pays est toujours une arène de lutte pour l'influence de la Russie, de l'Union européenne et des États-Unis. Comme on le sait, lors des élections tenues mercredi dernier, Bachar al-Assad a remporté 95% des voix et l'a nommé président de la Syrie pour un quatrième mandat. Le président du Parlement syrien, Hamoud Sabah, a déclaré lors d'une conférence de presse que 78% des électeurs avaient voté. Avec la mise en œuvre des élections, le gouvernement syrien a souligné qu'en fait, le pays fonctionnait normalement même s'il avait un conflit armé qui durait depuis 10 ans et était touché par la COVID-19. Le résultat des élections législatives qui auraient installé Bachar al-Assad ont été critiqués par les pays de l'Union européenne et les États-Unis. Avant la tenue des élections, l'Union européenne et les États-Unis ont pu publier une déclaration conjointe qui considérait qu'il s'agissait d'une fabrication de Bachar al-Assad. Les Nations unies ont appelé à la tenue d'élections en Syrie sous surveillance internationale. Les Nations unies espèrent que les résultats des élections pourront favoriser la naissance d'une nouvelle loi qui deviendra un moyen de résolution des conflits. Au lieu de critiquer la mise en œuvre et les résultats de l'élection, la Russie, qui est un allié de Bachar al-Assad, a salué les résultats de l'élection qui a rétabli Bachar al-Assad comme président syrien. Avec sa victoire, Bachar al-Assad régnera encore 7 ans et poursuivra le règne de la famille al-Assad qui a duré un demi-siècle. Le père de Bachar, Hafid al-Assad, a dirigé la Syrie pendant 30 ans jusqu'en 2000. Le conflit sanglant en Syrie a commencé en 2011 sous le règne de Bachar al-Assad. Les manifestations en ligne avec le phénomène du printemps arabe se sont finalement transformées en guerre civile qui a ensuite attiré des pays soutenant et s'opposant à Bachar al-Assad. En conséquence, des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers sont mortes et le peuple syrien vivait dans la pauvreté. On peut s'attendre à ce que l'élection, qui est largement considérée comme pleine de fraude et de controverses, ne soit pas en mesure de résoudre le conflit sanglant qui a également endommagé les infrastructures et le magnifique patrimoine historique. L'absence de solutions internes ainsi que l'influence et l'intervention des pays étrangers feront que le pays qui s'appelait autrefois Cham est connu pour être prospère et continuera à être déchiré par le peuple qui souffre. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome.
to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 2 juin 1946, référendum institutionnel italien 1946. Le référendum institutionnel était un référendum organisé en Italie le 2 juin 1946 et était un événement important dans l'histoire moderne de l'Italie. Jusqu'en 1946, l'Italie était un royaume gouverné par la Maison de Savoie. Cependant, le premier ministre italien Benito Mussolini a imposé un système de fascisme et entraîné l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, l'Allemagne. Ce référendum a eu lieu après la défaite de l'Italie dans cette guerre. La plupart des électeurs de ce référendum voulaient un système républicain. Enfin, la République italienne a été fondée en 1946. L'autre information est sur Elisabeth II est couronnée reine d'Angleterre le 2 juin 1953. La reine Elisabeth II est le chef plus long règne de l'État à ce jour. Il monta sur le trône le 2 juin 1953 à l'âge de 25 ans. La cérémonie de ce couronnement d'Elisabeth II a eu lieu à l'abbaye de Westminster à Londres, marquée par la lecture du serment devant des invités, des invités d'État et des dirigeants des pays du Commonwealth. Elisabeth II succède à son père, le roi George VI, décédé le 6 février 1952, pour devenir chef d'État de la Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 juin 1967, la mort de Benno Honecker lors d'une manifestation contre l'arrivée du Shah d'Iran à Berlin-Ouest. Benno Honecker était un étudiant allemand qui a participé à une manifestation le 2 juin 1967 à Berlin contre la visite du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, en Allemagne. Au cours de la manifestation, il a été tué par un policier. Sa mort a inspiré la fondation du groupe Radical Mouvement le 2 juin. Un monument à la mémoire de la mort de Honecker a été érigé à Berlin. Dans sa ville natale de Hanovre, son nom est immortalisé sur un pont qui traverse la rivière Ihme en son honneur. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Saat aku menang
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, la tendance économique se récupère. 2,61 millions de nouveaux emplois ont été créés. La ministre des Finances, Kimberly Indrawati, a déclaré qu'au cours de la période de tendance à la crise économique de la pandémie de COVID-19, 2,61 millions de nouveaux emplois ont été créés. Kimberly a déclaré que le taux de chômage avait augmenté en août 2020 pour atteindre 7,07%, mais qu'en février 2021, il était tombé à 6,26%. Cette absorption est plus rapide que la hausse du nombre de nouveaux demandeurs d'emploi qui a augmenté de 1,59 million de personnes dans la même période. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Finances, Sri Mulyani, lors de la réunion plénière du Parlement à Jakarta, lundi 31 mai. Sri Mulyani a déclaré que la création de nouveaux emplois et une diminution du taux de chômage sont des indicateurs de bien-être communautaire qui commencent à s'améliorer. Elle a déclaré qu'auparavant, l'amélioration du bien-être de la communauté et l'amélioration de la qualité des ressources humaines étaient entravées, en particulier en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19. Les indicateurs de bien-être public qui commencent à s'améliorer peuvent également être observés dans les réalisations de l'indice de développement humain de l'Indonésie en 2020, qui a augmenté de 0,02 points, passant de 71,92 en 2019 à 71,94. Le ratio de Gini a également augmenté en 2020 à 0,385 et le bien-être des agriculteurs et des pêcheurs a enregistré un mouvement dans le même schéma. Le taux de chômage des agriculteurs qui était tombé en dessous de 100 entre mai et juin 2020 s'est à nouveau renforcé au-dessous de 103 jusqu'en avril 2021. En ligne avec le taux de chômage des agriculteurs, l'indicateur de bien-être des pêcheurs, à savoir le taux de chômage des pêcheurs, NTN, a également connu une amélioration atteignant 103,70 en avril 2021. Sri Mulyani espère que le bien-être des personnes pourra être encore amélioré en 2021 et 2022 à travers de nouvelles étapes politiques du programme de la gestion de COVID-19. Il a souligné que les efforts de relance économique nationale jusqu'à présent ont également réussi à contenir les impacts négatifs de la pandémie en 2020 et 2021. Par conséquent, selon elle, cet élan doit continuer à être encouragé afin que les revenus des ménages, en particulier les pauvres et les vulnérables, augmentent à nouveau. Le taux de pauvreté devrait revenir à un chiffre. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
You're the one for me, baby. akan terpisah, yeah, sampai matiku, karena kesatu untukku. Mata hatimu mengarah, please, baby jangan marah-marah. Cintaku takkan pernah berubah. Ku percaya nanti pasti akan berakhir indah. Pada waktunya cuma kita berdua, dua hati satu cinta, saling menjaga. Ini lagu untukmu, cobalah kau dengarkan. Baby I love you till the end of time.
Baby oh, you're
the one for me,
you're the one for me.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel. Un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter Niagara à Bondowoso. La cascade de Niagara, située en Ontario au Canada, est la cascade la plus célèbre au monde en raison de sa beauté. Mais l'Indonésie est également une destination de cascade qui n'est pas moins belle que Niagara. Même à cause de sa ressemblance, cet endroit est surnommé Mini Niagara ou Petite Cascade Niagara. Cet endroit est situé dans le village de Kalianyar, le district de Sempol, Bondowoso, Jawa Oriental. Mini Niagara est l'une des trois cascades que vous pouvez visiter lorsque vous visitez le cratère Ijen via la route de la ville de Bondowoso. Comme son nom l'indique, la taille de cette cascade est en effet mini avec une hauteur d'environ 6 mètres seulement. Cependant, c'est précisément l'avantage car vous pouvez voir de près et c'est sûr si vous voulez jouer dans l'eau. Pour entrer ici, vous ne payez que des frais de stationnement d'environ 2000 rupiah. Cette cascade est surnommée Niagara en raison de sa disposition en cascade large et en terrasse. Sur la cascade coule une rivière claire et fraîche car elle est située dans une région montagneuse. De plus, cette cascade est entourée de collines verdoyantes avec des fleurs épanouies. Cet endroit est un lieu favori pour les photographes ou les chasseurs de flux Instagram pour prendre des photos en raison de son esthétique, en particulier au lever ou au coucher du soleil, la teinte orangée du ciel de l'après-midi se combine avec des arbres verts et des cascades rapides, exotiques en effet. Cette cascade n'est pas seulement visuellement belle, le bruit de l'eau et les insectes de montagne qui crient les uns aux autres rendent également le cœur calme. pas qu'il est entouré de forêts et de collines, l'air y est automatiquement propre et frais. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire là-bas. Si vous avez froid après avoir joué dans la cascade, vous pouvez vous rendre directement au shoot-shot disponible dans la zone de la cascade. Parce qu'il est situé à côté d'une usine de transformation de café arabica gérée par PTP Nusantara 12, l'arôme parfumé du café est garanti pour vous faire préparer immédiatement le café. Vous pouvez commander une tasse de café chaud et en profiter tout en discutant avec vos proches. Ces vacances des chers et, je veux dire, ces vacances pas chères et rafraîchissantes appliquent également des protocoles sanitaires stricts. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous suivez bien les règles. Chers auditeurs, c'était le magazine Cultura pour ce soir avec le titre Mini Niagara à Bondowoso en province de Java Est. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Manusia tercipta sempurna. Perjuangkan harga dirimu dan raihlah cintamu. Dengan tekad kita bisa. Kita kuat, kita hebat. Aku kamu, kita istimewa. Kita kuat. Semua hebat, bangkit kembali meraih mimpi. Kesalahan, kegagalan hidupmu jadikan pelajaran yang berharga. Jangan salahkan
Charge de l'état.
c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Coba Tarik Nafas. Coba Tarik Nafas. En français, essayez de respirer. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Coba Tarik Nafas. Coba Tarik Nafas. En français, essayez de respirer. Cette conversation se déroule entre Kevin et le médecin de la clinique. Le médecin a demandé à Kevin d'ouvrir la bouche pour un examen. Bonne écoute.
Saya periksa dulu ya, Pak. Baik, coba tarik napas.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Coba tarik nafas, coba tarik nafas. En français, essayez de respirer. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase, deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Periksa, periksa. En français, examiner. Dulu, dulu. En français, d'abord. Saya periksa dulu ya pak. Saya periksa dulu ya pak. En français, je vais examiner d'abord, monsieur. Coba, coba. Essayez. Tarik nafas. Tarik nafas. Respirez. Coba tarik nafas. Coba tarik nafas. Essayez de respirer. Chers amis, au cours d'une conversation, vous avez entendu le médecin a ordonné à Kevin Coba tarik nafas. Coba tarik nafas. En français, essayez de respirer. Dans la phrase de commande, il y a le mot choba, choba. En français, essayer. Le mot choba, choba, essayer. Dans ce contexte, il est utilisé pour affiner la commande donnée. Le mot choba, choba, essayer, qui sert à affiner la commande est placé au début de la phrase de commande. Par exemple, choba tarik nafas, choba tarik nafas. En français, essayez de respirer. Chers amis, écoutons un autre exemple donnant des instructions avec les mots choba. Choba, essayez. Docteur, choba buka mulut bapak. Choba buka mulut bapak. En français, essayez d'ouvrir la bouche, monsieur. Kevin, baik, baik. D'accord, monsieur. Chers amis, en plus du mot choba, choba, essayez, le mot tolong, tolong, s'il vous plaît, peut être utilisé pour affiner les instructions données. Cependant, le mot tolong, tolong, s'il vous plaît, est généralement utilisé dans des phrases impératives demandant à quelqu'un d'autre à faire quelque chose pour nous. Par exemple, tolong tutup pintunya, tolong tutup pintunya. En français, fermez la porte, s'il vous plaît. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Saya periksa dulu ya, Pak. Baik, coba tarik napas.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
siapa kamu? Mengapa selalu, selalu, selalu namamu menghantuiku? Karena kamu, karena kamu, sakit hatiku. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Je vais vous présenter une chanson de Ternate, Maluku Nord, intitulée Nyong Manis. Chers amis, la chanson Nyong Manis a été créée par Brad Chick Poets. Les paroles parlent d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme qui a un doux sourire et une fine moustache. La fille prie Dieu. Si l'homme n'a pas de partenaire, elle est jumelée avec lui. Jour et nuit, je me souviens toujours de l'homme. Cependant, s'il s'avère que l'homme a déjà un partenaire, le sentiment d'amour sera conservé dans le cœur seul. Mon cher Jutard, voici la chanson de Ternate intitulée Nyong Manis, chantée par Sansa Soleiman. Bonne écoute. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.